Monsieur le Premier ministre, bonjour.
Bonjour.
C'est jeudi 18 avril, vous avez totalisé une année dans vos fonctions. Combien vous coteriez-vous sur 10 par rapport à votre gouvernance et comment pourriez-vous justifier cette cote?
Bon, il serait peut-être très élogé de s'attribuer une cote excellente parce qu'on ne peut pas s'écoter soi-même. Il serait indiqué que ce soit ce qui nous voit travailler de donner la cote. Mais si vous me forcez à faire cet exercice, en toute honnêteté professionnelle, je ne me donnerai pas moins de 7 sur 10. Lorsque je vois les résultats qui ont été obtenus et je pense que par rapport aux objectifs que le gouvernement s'est assigné, nous avons atteint des performances qui nous permettent de dire qu'on a acquis une cote au-delà de 7 sur 10.
C'est la cote que vous donnez, mais l'une des grandes critiques formulées contre vous, c'est que vous vantez beaucoup de la stabilité du cadre macroéconomique, mais cela ne se sent pas dans les vécus des citoyens congolais. Êtes-vous mal compris ou bien c'est votre explication de la notion du macroéconomique qui est mal donnée?
Bon, je crois que quand on est professionnel, on ne peut pas tomber sous la vague des rumeurs, sous la vague des médisances, sous la vague des colportages. Quand on est professionnel, on regarde les choses froidement. La stabilité du cadre macroéconomique. On ne doit pas oublier que dans ce même pays, on a vécu l'hyperinflation. Et tout le monde sait, pour ceux au moins qui sont honnêtes, que la décadence économique dans laquelle nous nous trouvons est due notamment à l'existence de l'hyperinflation. Quand il y a la valse des prix, la valse des étiquettes, on ne sait pas faire le commerce, on ne sait pas programmer, on ne sait pas anticiper. C'est très beau pour ceux qui parlent de cette manière-là, parce que, ils touchent en dollars, ils perçoivent les dollars, ils ont des rentes, mais les Congolais moyens, le fonctionnaire de l'État, celui qui touche aujourd'hui son salaire à partir du 15 de chaque mois, celui qui touche son salaire en francs congolais, tout en ayant la stabilité des prix, le militaire et le policier, ces fonctionnaires de l'État, ces enseignants, qui hier, leur salaire subissait des prélèvements intempestifs, touche à la banque. Ces fonctionnaires-là, ces enseignants-là. Monsieur le journaliste, laisse-moi vous dire qu'ils sont satisfaits.
Mais puisqu'il y a le décalage entre la stabilité du cadre macroéconomique et le social des Congolais, le décalage qui semble remettre en cause votre action entreprise, que faire pour relever les défis?
Monsieur le journaliste, peut-être qu'on ne se comprend pas. Il n'y a pas de décalage entre la stabilité et le social. Lorsque le président Kabila accédait au pouvoir en 2001, un fonctionnaire de l'État touchait combien? 10 dollars. Un professeur d'université n'avait même pas 100 dollars. C'était entre 30 et 50 dollars par mois. Et ce salaire-là a été touché de manière irrégulière, à l'improviste. Et aujourd'hui, combien touche un fonctionnaire? Bien sûr, c'est encore bas. Mais c'est à quel niveau? Ce n'est pas 10 dollars. Quel est le retard? C'est régulier. Combien touche un professeur d'université? C'est vrai, c'est pas encore à la hauteur d'un professeur d'un pays développé. Mais lorsque vous dites que le social n'est pas compatible, laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, lorsqu'on achète des bus pour que les Congolais qui circulent dans des bus corbillards soient transportés de manière digne, ce n'est pas du social? Lorsqu'on construit les écoles, maintenant nous avons mis sur pied un programme. Aujourd'hui, nous avons donné au ministre de l'enseignement primaire 40 milliards de francs congolais. Moi-même, ici, j'ai été jusqu'à Kimbanteke pour lancer le programme national de construction de 400 écoles dans ce pays. Et avant la fin de l'année, nous allons donner 100 milliards de francs congolais pour construire plus de 1200 écoles en une année. Ce n'est pas dissociable. Lorsque nous lançons un programme ambitieux de construction, de réhabilitation, des centres de santé, des zones de santé, des hôpitaux, lorsque nous mettons en œuvre un programme de réunification routière, ce n'est pas du social. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui veulent toujours que notre pays rentre en arrière. Il n'y a pas de déconnexion entre le social et la stabilité. C'est quoi?
Oui, monsieur le Premier ministre, on vous reproche d'appliquer beaucoup plus la politique d'austérité dans votre gestion. On dit que vous tirez trop la corde. Qu'est-ce que vous en dites?
Dites-moi, monsieur le journaliste, avez-vous vu une invention qui se fait dans les brouhahs? Moi, je n'en connais pas. Avez-vous une salle de classe qui enseigne dans les bruits? Je ne connais pas. Avez-vous vu une grande université qui fait des théâtres pendant les cours? Non, tout se fait dans la discipline, tout se fait dans l'ordre, tout se fait dans l'organisation, tout se fait dans la rigueur. Cette rigueur-là qu'on nous reproche, ce n'est pas la population qui nous reproche. La population veut la rigueur. Allez demander aux enseignants, ils vous diront qu'ils sont contents de cette rigueur. Pourquoi? Parce que désormais, leur salaire est payé régulièrement. Quand il n'y avait pas de rigueur, leur salaire n'était pas payé régulièrement. Quelqu'un qui a un petit marché pour lequel il fournit en concurrence de 1 million de dollars, on lui paye 10 millions de dollars. Qui perd? C'est les Congolais qui perdent. Qui profite? C'est le fameux opérateur économique avec des surfacturations. C'est fini cette histoire.
Les députés qui vous en voulaient dans leur motion de censure vous reprochent la violation de la loi budgétaire, notamment la rectification et les réaménagements du budget sans l'aval de l'Assemblée nationale. Ces reproches est-il fondé?
Je ne voudrais pas faire de la polémique, monsieur le journaliste, sur ces questions. Vous savez que nous avons beaucoup de respect pour l'Assemblée nationale, nous avons beaucoup de respect pour le Sénat et pour l'ensemble des institutions de la République. Tout ce que je peux vous dire sur cette question, c'est que nous travaillons pour le bien de la communauté. Nous travaillons pour que ce pays avance. Vous savez, les billets sont des prévisions. Entre les prévisions et les réalisations, il y a un pas.
Enfin, mais il y a aussi l'impunité qui vous est reprochée. Votre gouvernement ferme les yeux, dit-on, devant la corruption. La justice est impuissante devant une catégorie de personnes devenues intouchables. Elle-même, la justice, elle est très corruptible. Et tout ça tombe sur votre dos. Comment entendez-vous vous décharger?
Bon, monsieur le journaliste, vous devez savoir que le gouvernement est une institution. La justice est une autre institution. Nous sommes conscients des remarques qui sont faites par les uns et les autres, mais nous devons travailler tout en respectant les exigences démocratiques qui veulent que bon, la justice soit un pouvoir indépendant.
Avant une dernière question, monsieur le Premier ministre, l'eau et l'électricité à fournir à la population apparaissent toujours un challenge et la dédollarisation de l'économie nationale ne s'annonce pas encore vaincue. La paix dans les Nord Kivu est toujours hypothétique, les maïmaï ne laissent pas les gens dormir par-ci, par-là, et tout ça vous gêne-t-il?
Non, ça ne me gêne pas, mais ça me préoccupe, parce que la sécurité, ça fait partie, en tout cas, des objectifs d'un gouvernement. L'électricité, l'eau, ça fait partie des indicateurs clés de la vie sociale. Nous sommes en train d'y travailler. Vous savez, monsieur le journaliste, quand on plante les graines de maïs, on ne peut pas récolter le même jour. Même si on est un savant, même si on est un pays développé comme les États-Unis, il n'y a pas un pays où vous plantez les graines de maïs et vous récoltez le même jour. Le problème de sécurité ne peut pas se terminer dans ce jour. Le plus important, c'est que le gouvernement est conscient de ce problème. Le gouvernement y travaille. L'eau et l'électricité. J'ai déjà tenu des réunions pour discuter de la problématique. C'est un défi énorme. C'est un challenge. Mais le plus important, c'est que nous y travaillons. Lorsque quelqu'un est à moins 15, lorsqu'il monte à moins 10, n'a-t-il pas progressé? Certains diront qu'il n'a pas progressé parce qu'il est toujours en dessous de zéro. Mais un bon mathématicien vous dira que non, il est plus proche qu'il l'était auparavant. Nous sommes dans un processus aujourd'hui. Les spécialistes disent que la RDC est dans un processus, il progresse. Mais vu le retard dans lequel on était, on a l'impression qu'on n'a pas progressé. Pour ceux qui ne veulent pas voir les progrès de ce pays, l'électricité et l'eau, effectivement, sont des défis énormes. Mais nous n'avons réalisé que 12 mois de travail. Nous n'avons pas l'ambition de dire que tout a été fait. Non, bien au contraire. Ce n'est pas un travail qui va se terminer en 5 ans. Bien au contraire. C'est un travail qui doit s'étaler sur 30 ans, 40 ans, 50 ans.
Une dernière question, monsieur le Premier ministre. Vous amorcez un nouveau virage de votre mandat. Vous lui donnez quelle configuration?
Écoutez, c'est un mandat que nous consacrons au social. Je dois vous dire que cette année a été une année harassante, une année complexe. J'étais ministre des Finances, je m'occupais d'un secteur. C'était très difficile, mais c'était moins compliqué. Être chef du gouvernement, c'est à la fois difficile et complexe. Mais nous avons vaincu l'instabilité du cadre macroéconomique. Ça veut dire quoi concrètement? Nous venons de poser les bases solides d'une fondation pour nous permettre de commencer à mettre les briques pour monter la construction. L'année 2 du gouvernement Matata, c'est une année qui va être consacrée au progrès social. La fondation ayant déjà été posée.
Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci beaucoup.